Bonjour à tous. Merci à ceux qui ont prié pour moi, pour apporter cette parole, qu'elle soit esprit et vie dans nos cœurs à tous. Et sans qu'on soit concerté, eh bien, que ce soit avec Jean-Yves ou avec Patrice, eh bien, le Seigneur a donné des paroles qui introduisent mon sujet. Donc, si on peut mettre le... Merci. Donc, le sujet de ce matin que Dieu a mis sur mon cœur, c'est ce texte de Romains, chapitre 8, au verset 28 à 32. Ce Dieu, notre Créateur et Sauveur, a un plan éternel. Et il est bon de s'en souvenir. Il a un plan éternel pour chacune de nos vies. Et je vous propose bien de lire ce texte, qui est le sommet, le top du top de la révélation de la grâce divine à l'égard des hommes, à l'égard de chacun de nous. Donc il est très important, c'est un texte connu, mais que j'avais à cœur d'approfondir pour ce matin avec vous. Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Comme Patrice l'a rappelé lors du repas du Seigneur, il nous arrive, même si nous avons lu ces textes, même si nous les avons crus au fond de notre cœur, il nous arrive de douter, n'est-ce pas? Parce que le doute, on dit que le rire est le propre de l'homme, mais je crois que le doute aussi est le propre de l'homme, n'est-ce pas? Et ce texte est là pour nous rappeler la richesse immense du Seigneur. C'est vrai que nos vies sont marquées par la faiblesse, par le péché. Et il y a des questionnements qui peuvent revenir sans cesse dans nos vies face aux difficultés, aux épreuves qu'on traverse. On n'a pas le même état d'âme que quand tout va bien. Et donc, c'est pourquoi l'apôtre Paul pose ces questions fondamentales. Et on voit au verset, enfin, il y a plus que quatre questions, mais enfin, j'en relève quatre. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, hein? Ensuite, qui accusera les élus de Dieu? L'accusation. Qui les condamnera? La condamnation, au verset 34. Et encore au verset 35, qui nous séparera? Et il cite un certain nombre d'épreuves que les hommes peuvent connaître, au verset 38, la mort, la vie. Il cite au verset 35 aussi la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim ou le dénuement. Donc, il est important pour nous, frères et sœurs, où que l'on en soit, qu'on soit bien ou qu'on soit mal dans nos circonstances de vie, eh bien, de nous rappeler de la grandeur du plan de Dieu. Et donc, il y a cinq verbes sur lesquels j'aimerais qu'on médite ce matin. C'est ces cinq verbes que Paul avance qui nous montrent le privilège que nous avons en Jésus-Christ, connu d'avance, prédestiné, appelé, justifié et glorifié. Nous sommes cinq fois bénis, si nous prenons ces cinq mots. Nous sommes riches en la foi, très, très riches, immensément riches. Il n'y a pas de limite quand on lit, si on réalise ce que veulent dire ces textes. Donc le premier, connu d'avance, une expression qui nous renvoie à la préscience de Dieu. Alors c'est vrai que c'est un mot pas évident et pas très connu. Donc, ça nous parle aussi que le Dieu qui s'est fait connaître à nous, c'est un Dieu omniscient, c'est-à-dire qui sait toutes choses, qui voit et connaît tout, y compris à l'avance, pré-science, donc la science d'avant. Hein. Et John MacArthur, dans un de ses livres, dit ceci, que la rédemption commence par la préscience divine. Et dans ce psaume que Jean-Yves nous a lu ce matin, la rédemption est auprès de toi en abondance, afin qu'on te craigne. Donc, ce Dieu qui nous a sauvés, dès les temps éternels, avait ce désir de nous racheter. Il savait qu'il y aurait la chute et qu'il y aurait une cassure entre lui et nous et qu'il allait tout faire et tout prévoir pour réparer cette cassure, cette rupture de relation. Et dans l'épître de Pierre, la première, au chapitre 1, au verset 2, il nous est dit que Dieu nous a élus, nous sommes des élus selon la préscience de Dieu le Père. Est-ce que nous le croyons, si nous avons cru? C'est pas nous qui avons choisi le Seigneur, c'est lui qui nous a choisis, selon sa préscience. Ça va très très loin, ça. Ça remonte à des temps que nous ne pouvons pas mesurer. Ce mot préscience, ce n'est pas seulement la capacité de prévoir, mais aussi, paraît-il, dans le texte original, c'est de prédéterminer. Alors ça aussi, c'est quelque chose aussi qui nous dépasse. Et il nous en est parlé dans les Actes des Apôtres, au chapitre 4, par exemple, quand Pierre annonce l'Évangile. Et puis après, c'est dans Acte 2, dans Acte 4, c'est la prière des chrétiens. Et dans cette prière, des chrétiens qui sont menacés, eh bien, ils sont vraiment conscients du plan de Dieu, puisqu'ils disent dans cette prière, Acte chapitre 4, verset 28, ils disent, Ponce Pilate, dans cette ville, se sont ligués avec les nations et les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance, en parlant de la mort de Jésus-Christ. Tout ce que ton conseil et ta main avaient déterminé d'avance. Donc, Dieu a déterminé tous ces événements fâcheux à vue humaine, mais combien bénéfiques pour nous. Il avait déterminé à l'avance toutes choses pour nous sauver. Connaître d'avance veut dire aussi aimer à l'avance. Dieu éprouve à notre égard un amour prédéterminé. Connaître dans le sens biblique, c'est aussi l'intimité particulière de la relation d'amour entre l'homme et la femme. Adam connut Ève, dans Genèse 4, et dans Amos 3, nous avons aussi ce mot qui est traduit « connaître » dans la traduction Darby, mais qui est aussi traduit dans d'autres traductions « je vous ai choisi » ou « connu », c'est la même chose dans l'hébreu. Et vous seul, en parlant d'Israël, je vous ai connu parmi toutes les familles de la terre. Donc ça nous parle donc d'intimité, d'amour profond. Un amour fait de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et quand Jésus parle des faux croyants dans l'évangile de Matthieu, il dit « Retirez-vous de moi, vous que je n'ai jamais connu. » Vous qui pratiquez l'iniquité, c'est-à-dire ceux qui se réclament de lui, même en faisant des miracles ou en prophétisant, mais qui ne l'ont jamais connu. Par contre, il est dit dans 2 Timothée aussi que le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Il te connaît si tu lui appartiens. Quel encouragement pour chacune de nos vies. Tous les vrais croyants sont des gens connus de Dieu, et aimé de Dieu. On voit ça dans Jérémie aussi, dans l'appel du prophète Jérémie, au chapitre 1. Au verset 4 et 5, il est dit, « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, « Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes de son sein, je t'avais consacré. » Donc Dieu ne fait pas les choses au hasard. Il nous connaît à l'avance, tout comme le prophète Jérémie, tout comme cet homme qui, un jour, vous le savez, dans l'Évangile, était un homme qui avait des doutes sur Jésus, le Messie, qui était sous un figuier, il s'appelait Nathanaël. Et le Seigneur lui dit, avant que Philippe ne t'appelle, je te connaissais. Je te connaissais. Jésus-Christ a pu dire cette parole à cet homme qui avait des doutes et qui a passé du doute à la foi, puisqu'il a dit, tu es vraiment le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Donc, la prescience de Dieu, la connaissance de Dieu nous conduit à ce deuxième mot, la prédestination, un mot qui a fait couler beaucoup d'encre et que je m'empresse de vous dire, nous n'en ferons pas le tour ce matin, on n'a pas le temps, mais je fais quelques réflexions là-dessus et ça peut nous aider à saisir quelque chose du plan de Dieu. Donc la décision divine précède le décret, et le décret c'est la prédestination. Dieu connaissant tout à l'avance, nous élit et nous prédestine. Selon Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 6, nous avons ce texte magnifique où il nous est dit, en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut, devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Donc, Dieu qui connaît tout à l'avance, il nous élit, nous prédestine, et nous ne sommes pas ses enfants en tout premier lieu parce que c'est nous qui l'avons choisi, le premier, mais c'est Dieu qui nous a choisis. Et ça aussi, ça peut nous rassurer. Ça confirme aussi ce que Paul dit aux Romains. Ainsi, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Nous sommes les objets de la miséricorde de Dieu si nous sommes là ce matin, si nous croyons. Quel réconfort aussi ça peut nous apporter. Donc, cette pensée de la prédestination nous rappelle que tout est grâce, comme on l'a chanté aussi tout à l'heure. Tout est grâce, l'origine du salut est en Dieu seul. Et c'est quelque chose, bien sûr on peut en discuter, mais on ne peut pas faire le tour et tout comprendre avec notre intelligence humaine, nous sommes limités. La Bible parle d'un mystère qui nous dépasse et ce mystère devrait ou doit nous pousser à l'adoration. Dieu, il nous est dit dans Hébreux chapitre 2, veut conduire à sa gloire beaucoup de fils. Et il veut que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce, comme on fait ce matin timidement, peut-être maladroitement, peu importe. Ce qui compte, c'est que ça vienne du fond de notre cœur, n'est-ce pas? Ces prières d'adoration, si faibles soient-elles, eh bien, sont comme un bouquet qu'on offre à Dieu chaque dimanche, et puis peut-être pas chaque dimanche, j'espère, aussi dans notre vie quotidienne de la semaine. Mais le dimanche, c'est une expression, on va dire, publique de notre amour. Qu'on est appelé à lui rendre. Donc le but de la prédestination, il nous est bien dit dans les Romains, qu'on vient de le lire, prédestiné à quoi ? À être semblable à l'image de son fils. Donc c'est quelque chose qui est aussi extraordinaire de penser que si Dieu nous a créés à son image à l'origine, eh bien il veut aussi nous recréer, alors que cette image a été gâchée par le péché, à l'image parfaite de son Fils, nous, des pécheurs impies, que le péché a défigurés moralement, en particulier spirituellement, eh bien, nous soyons, de penser que nous soyons transformés à l'image parfaite du Fils de Dieu, c'est quelque chose qui est énorme. Et c'est un miracle de la grâce de Dieu. Donc, il faut aussi se rappeler ceci, cette vérité, c'est que si Dieu prédestine les croyants à la vie éternelle, ce qui est clairement dit à travers l'Écriture, eh bien, il n'est jamais dit nulle part que Dieu a prédestiné les incroyants à la perdition éternelle. Si quelqu'un va dans le feu éternel, c'est qu'il a rejeté Dieu, le salut, sa lumière. Mais Jésus, parallèlement à ça, dit clairement que nul ne peut venir à lui si cela ne lui a été donné par le Père. Évangile de Jean, chapitre 6, versets 37 et 44. Donc, rappelons-nous ceci aussi, c'est que Dieu ne destine pas les croyants. Dieu ne destine pas les croyants au salut en fonction de ce qu'ils sont ou de ce qu'ils font, mais en fonction de sa seule grâce souveraine. Et on le voit aussi dans l'élection d'Israël. Malgré leurs fautes, ils restent toujours le peuple choisi par Dieu. Et encore aujourd'hui, Dieu n'a pas rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. La troisième mention, c'est l'appel. L'appel appelé selon le plan divin de Dieu. La prédestination divine conduit à l'appel. Bien que l'appel de Dieu résulte d'abord de sa propre initiative, son dessein, à un moment donné, croise nos vies dans la sphère temporelle. Et c'est là qu'il y a l'appel. Ceux qui sont appelés, qui sont-ils? Ce sont ceux qui écoutent l'Évangile, la bonne nouvelle. Ceux qui écoutent cette parole et dont le cœur est travaillé par le Saint-Esprit pour les conduire dans la repentance et dans la foi au Seigneur Jésus-Christ. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Hein? On connaît ce texte. Ceux qui reconnaissent leur misère. Et c'est impossible de répondre à l'appel extérieur de Dieu si le Saint-Esprit n'a pas travaillé nos cœurs et prédisposé nos cœurs aussi à répondre à cet appel intérieur de venir au Seigneur. Paul dit aussi qu'il a été mis à part, appelé par sa grâce, dans Galates chapitre 1, dès le sein de sa mère. Il dit cela dans 2 Timothée 1. Il dit, c'est lui qui nous a sauvés et nous a adressé un saint appel, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Donc Dieu a un plan grandiose. Et encore dans les Thessaloniciens, ce texte aussi que j'ai écrit, 2 Thessaloniciens 2, 13 et 14, qu'il vaut la peine de lire, parce que c'est un texte qu'on peut vraiment même apprendre par cœur, parce qu'il est tellement magnifique. 2 Thessaloniciens 2, 13. Nous devons, quant à nous, frères bien-aimés du Seigneur, rendre continuellement grâce à Dieu, à votre sujet, car Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à cela qu'il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il y a tout là. C'est un texte qui rejoint ce que Paul dit aux Romains, n'est-ce pas? Il y a l'appel aussi par l'évangile. Donc cet appel, nous l'avons entendu. Et si on l'a entendu et qu'on y a cru, c'est parce qu'on est prédestiné. Et si on est prédestiné, c'est parce que Dieu nous a connus d'avance. Il y a aussi un exemple dans l'Écriture qui est très intéressant, c'est l'exemple de l'aveugle, Bartimée. Il avait tout contre lui, il était aveugle, il était au bord du chemin. Il criait parce que Jésus passait par là. Et puis il y avait plein de gens autour qui lui faisaient des reproches pour le faire taire. Mais il criait d'autant plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. Prends courage. Qu'est-ce qu'il a fait, hein? Vous le savez, la suite. Il n'a pas hésité. Hein? Il a jeté son manteau, ses sécurités, on va dire, humaines. Et même qu'il était encore aveugle, il était vers Jésus pour être guéri. C'est une belle histoire qui nous rappelle aussi que s'il y a quelqu'un parmi nous encore aujourd'hui qui serait cet aveugle spirituel au bord du chemin, sans voir le Christ, le Sauveur, il peut faire un acte de foi et aller vers Jésus, qu'il appelle au salut, au pardon de ses péchés, à la vie éternelle que lui seul peut donner aux hommes, à quiconque. Prends courage, lève-toi, il t'appelle. Dans Jean 10 aussi, nous avons cette image du bon berger, où il est dit que le bon berger, c'est Jésus qui parle de sa mission, il appelle ses brebis par leur nom. Il nous connaît personnellement, il nous aime personnellement. Il a un plan pour chacun de nous qui n'est pas le même que pour mon voisin ou ma voisine. Mais c'est quand même le même au point de vue salut. Et il veut nous emmener dans son royaume de gloire, jusqu'à ce royaume éternel. Alors, on peut se dire, quelle est notre part dans tout ça, puisque c'est Dieu qui fait tout. Elle est faible au regard de la sienne, parce qu'il est fidèle, Dieu. Lui qui nous a appelés à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Il est fidèle, c'est sa fidélité. Mais après, il nous appelle aussi à l'obéissance. Et ça, c'est notre part et notre réponse. Et c'est l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, qui dit cette parole. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois dans votre ignorance, mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint. Donc le Seigneur, il nous appelle, non pas à rester passif, mais à nous laisser transformer selon sa nature dans la sainteté, c'est-à-dire la séparation de toute forme de mal qui règne, non seulement dans ce monde, mais dans nos propres cœurs. Et là, je crois qu'il y a du travail, n'est-ce pas? Si on se connaît, tant soit peu, nous devons rester vigilants. Et notre Père veut des enfants conformes à son caractère. Ensuite, le quatrième mot, justifié. Justifié, c'est aussi c'est tout le thème de la lettre aux Romains, de Paul aux Romains, où il prend les premiers chapitres pour nous montrer que ni les Juifs, ni les Grecs, ni les religieux, ni les philosophes ne sont justes devant Dieu, malgré tous leurs efforts, et qu'il faut, il faut la grâce de Dieu pour nous rapprocher de lui. Et il nous cite l'exemple d'Abraham, appelé le père des croyants, et d'un Romains, chapitre 4, Paul rappelle ce modèle aussi d'Abraham, au verset 3, que dit l'Écriture ? Abraham, je lis donc Romains 4, verset 3, « Abraham crut à Dieu et ça lui fut compté comme justice. » Au moment où il doutait, au moment où il était même découragé, « j'ai pas de descendance, j'ai pas de postérité », eh bien Dieu l'amène dehors. Et lui dit, regarde, lève les yeux vers le ciel. Regarde plus loin que toi, regarde vers moi. Et il est dit qu'il crut Dieu, qu'il lui imputa ou lui mit sur son compte le don de la justice, de sa justice divine. Alors il dit, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Quant à celui qui ne fait pas d'œuvre, comme Abraham, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée comme justice. Alors, c'est des termes un peu difficiles, il faut peut-être les relire à la maison, hein, pour bien les saisir. Mais donc, Dieu impute gratuitement le don de sa grâce et de sa justice à Abraham. De même, beaucoup plus tard, on voit cette histoire de Jésus qui parle du péager en prière, dans l'Évangile selon Luc au chapitre 18, un contraste avec un pharisien qui se glorifie de tout ce qu'il fait pour Dieu, ses jeûnes, ses offrandes. Enfin bref, c'est un religieux parfait. C'est un homme qui croit en sa propre justice, qui est aveuglé par cette propre justice. Et puis le misérable péager dans son coin qui confesse son péché, qui n'ose même pas lever les yeux vers le Seigneur et qui lui dit « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, pécheur, je vous le dis ». Nous dit Jésus, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Quelle est notre attitude devant le Seigneur? Cette histoire, vraiment, elle nous montre le bon chemin à prendre. Et beaucoup plus tard, il y a eu l'exemple, 1500 ans plus tard, du moine Martin Luther. Donc ça fait, j'ai noté la date aussi, 1512. On situe l'année de sa conversion. Martin Luther, qui était un moine et qui était aussi un théologien, un professeur de théologie, et qui tourmentait, il avait sa conscience tourmentée par l'état de son propre cœur, du péché qu'il voyait en lui. Et donc, Luther, je vous lis juste un petit extrait du jour où il s'est tourné vers le Seigneur. Donc, c'était en 1512. À 4 heures de l'après-midi, le 17 février 1520... Ah non, pardon, ça, c'est pas ça. Je me suis trompé. C'est pas là. Donc, bon, je ne retrouve plus le passage, mais bon. Luther était en tout cas travaillé dans sa conscience au point de pleurer. Et dans sa cellule, eh bien, il criait à Dieu jusqu'au jour où il est tombé sur le texte de l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, que je vais lire avec vous. Et à partir de là, il a découvert que la justice ne dépendait pas de ses œuvres religieuses, de ses pénitences, de ses mortifications, de tous les efforts qu'il faisait pour lutter contre sa nature pécheresse. Mais tout d'un coup, la lumière a jailli quand il a lu « Car je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. » Et c'est ce verset 17. « En effet, la justice de Dieu s'y révèle par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Là, c'est quelque chose d'énorme, parce que ça concerne aussi bien notre salut, notre destinée éternelle, que notre marche quotidienne avec lui. Vivre par la foi, en nous appuyant avec confiance sur l'œuvre d'un autre, pas mon travail à moi, mais le travail d'un autre, le Seigneur Jésus-Christ, qui a tout accompli. Et ça a été à ce moment-là le soulagement pour Martin Luther, qui a osé défier le pape de l'époque, qui vendait des morceaux de paradis par indulgence interposée. Et donc, c'était un réveil spirituel qui a marqué toute l'Europe et qui, encore, a changé le cours de l'histoire. Et donc, voilà, la puissance de la justification, c'est-à-dire Dieu déclare juste un être injuste par sa seule grâce. C'est ça la justification. Ensuite, la glorification. Donc, Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. C'est le plan de Dieu. Il ne veut pas rester seul. Il nous a créés pour que nous puissions nous réjouir et vivre en sa présence, dans sa gloire. Alors j'aimerais lire encore dans Romains, au chapitre 5, il nous est dit, au verset 2, 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Est-ce que c'est notre espérance ce matin dans nos cœurs? Est-ce que nous en sommes fiers? C'est ce que veut dire Paul. Nous nous glorifions, c'est être fiers. Est-ce que nous sommes fiers de savoir que Dieu nous appelle à sa gloire éternelle et que quand on parle de l'avenir et qu'il y a des gens autour de nous qui disent tout se finit dans la terre, il n'y a pas d'espoir, c'est le trou noir. Et c'est vrai que quand on ne croit pas, c'est vraiment le trou noir. Mais nous nous glorifions dans l'espérance de quelque chose d'extraordinaire, c'est la gloire de Dieu. Et la gloire, je le rappelle aussi au passage, c'est le fruit de la victoire. C'est Dieu qui a remporté la victoire sur le péché et la mort pour que nous en soyons sortis. Et donc, Dieu a un avenir glorieux parce qu'il est victorieux en Christ sur le péché et la mort. Et cette victoire, il me la donne gratuitement. Il nous est dit dans Romains chapitre 8 aussi, versets 18 à 21, J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création attend-elle avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité de celui qui l'y a soumise. Avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Vous voyez, même la création attend. Le monde dans lequel nous vivons attend inconsciemment ou consciemment la révélation de tous les vrais enfants de Dieu, c'est-à-dire notre corps qui sera transformé, transfiguré à l'image de Jésus-Christ. Il transformera, il le dit dans Philippiens 3:21, quand il viendra, il transformera notre corps humilié en un corps de gloire semblable au sien. Quelle espérance extraordinaire! Alors quand on est jeune, on ne réalise pas toujours que notre corps est humilié, mais quand on prend le poids des années, on réalise bien que notre corps est un corps d'humiliation avec la maladie, la souffrance, et on ne peut pas échapper à cette humiliation. Pourquoi? Parce que quelque part, elle est pédagogique. Dieu veut nous apprendre à atteindre quelque chose de bien meilleur. Ce corps de gloire, semblable au corps de Jésus-Christ, c'est quelque chose dont nous devons méditer et être remplis pour pouvoir espérer dans cette gloire à venir. Donc, Dieu, et si vous remarquez, il est dit, Dieu nous a glorifiés au passé. On est déjà glorifiés quelque part. On est déjà glorifié en Christ. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fait asseoir, il nous est dit dans l'Épître aux Éphésiens, avec lui, dans les lieux célestes, les lieux de la victoire, à la droite de Dieu. Et c'est cette position qui est devenue la nôtre aussi par le travail de notre Seigneur. Il nous a emmenés déjà avec lui spirituellement dans ces lieux célestes. C'est le message de l'Épître aux Éphésiens. Alors, bien, c'est vrai, quand on est dans la vie quotidienne, dans le travail quotidien, on oublie parfois cette réalité, mais c'est une réalité spirituelle. Donc, Dieu a déjà commencé son œuvre de glorification en nous, et bien sûr, il va l'accomplir d'une façon parfaite le jour de la venue de notre Seigneur et Sauveur. Donc, pour conclure, dans Romains chapitre 8, il nous est dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et tu peux mettre le suivant. Donc, c'est dans Romains 8, 16. Nous avons ce témoignage intérieur. Si nous avons ce témoignage intérieur, eh bien, nous sommes assurés de l'élection et du salut de Dieu. Nous sommes ses enfants, selon son plan, et rien ne saurait se mettre en travers du plan final que Dieu a pour nous. Alors, est-ce que nous n'avons rien à faire? Quelle est la part de l'homme dans le salut? Eh bien, il y a une, en tout cas, il y a plusieurs réponses, bien sûr, mais j'en ai pris qu'une pour ne pas trop allonger ce matin. Dans Philippiens, au chapitre 2, il nous est dit, ça dépend bon, sur les traductions, mais « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi avec crainte et tremblement, mettez votre salut en action. » D'autres traductions plus anciennes disaient « Travaillez à votre salut ». Alors, on dit « Ouh là, ça sent le salut par les œuvres ». Eh bien, c'est mettre un salut. L'idée du texte original, c'est de mettre ce salut qu'on a déjà reçu en action, en obéissant justement aux exigences de l'Évangile, d'une vie nouvelle. Et donc, notre conduite et notre vie quotidienne devraient être imprégnées. Philippiens, je lis chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui opère en nous le vouloir et le faire selon son dessein bienveillant. » Cette semaine, Dieu va accomplir en moi, en toi, il veut accomplir un plan bienveillant. Lequel, par quoi et comment, on ne sait pas tous les détails. Mais voilà, ceci est écrit, à moi de le saisir et de me dire, cette semaine qui vient devant moi, Je veux saisir que Dieu a un plan bienveillant. Alors que nous dit-il, faites tout sans murmure ni discussion, pas toujours facile, pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Donc, par notre vie quotidienne d'obéissance et de confiance, de dépendance envers le Seigneur, et aussi de savoir que nous sommes appelés des porte-lumière, des flambeaux. Cette lumière, ce n'est pas nous qu'on l'a créée, qu'on l'a inventée, nous l'avons reçue par grâce, à travers le don de Jésus-Christ. Et donc, nous sommes ainsi appelés à porter cette parole de vie. La lumière et la vie sont aussi dans la parole de l'Évangile, une parole qui doit être dite, transmise, témoignée par nos actes, d'accord, d'abord, mais ensuite aussi par notre bouche. Donc, souvenons-nous de ces cinq verbes qui doivent nous pousser non seulement le dimanche, mais aussi tous les jours de notre semaine à louer, adorer Dieu par des cantiques, par des prières de reconnaissance, que ça puisse nous encourager à persévérer. Nous sommes connus d'avance, nous sommes prédestinés, appelés, justifiés et glorifiés. Notre vie a un sens pour Dieu et pour nous, bien sûr, et pour les autres. Alors, Dieu a un grand plan, et de savoir que le salut, eh bien, c'est une affaire éternelle entre Dieu et nous, et personne ne pourra s'y opposer. Paul disait aux Romains, car c'est de lui, par lui et pour lui, en parlant du Seigneur, que sont toutes choses. Amen. Je vous propose de prier. Notre Père, merci pour tes promesses, merci pour ces mots qui résument une réalité tellement infiniment plus glorieuse que nous avons de la peine à le réaliser. Et nous te prions d'éclairer encore par ton Saint-Esprit les yeux de nos cœurs pour que nous puissions connaître cette espérance qui s'attache à ton appel. Illumine les yeux de nos cœurs, nous t'en prions encore et toujours. Nous en avons tellement besoin pour que tu puisses imprégner nos vies, nos actions, et que nous puissions vraiment continuer notre chemin à persévérer dans le chemin de la vie qui est étroit et resserré. Mais tu veux nous donner la victoire, tu veux nous donner ta paix, ton réconfort, ton courage, et renouvelle-nous chacun là où nous en sommes pour faire un pas de plus encore dans ces temps qui viennent avec toi, dans l'obéissance à ta voix, dans l'amour que nous sommes appelés à te porter, toi notre grand Dieu, toi notre Sauveur, par notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tout cela, c'est toi qui le feras à travers nous et nous nous appuyons sur toi. À toi la gloire, notre Père, en Jésus. Amen.